Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
S'ils pensent nous faire peur et nous faire reculer, ils se sont trompés de ville. Et je le dis, il faut que la justice frappe à la hauteur de la colère que je peux ressentir.
Le maire de Rieux-la-Pape demande des sanctions exemplaires. Hier soir, des dizaines de jeunes ont saccagé un quartier de sa ville. Comme la veille à Lyon, les violences se multiplient dans le secteur.
Le gouvernement veut accélérer la vaccination. De nouveaux créneaux vont être ouverts le week-end et le soir. Objectif 20 millions de vaccinés d'ici à la mi-mai.
C'est l'un des grands moments de cette matinée. Le pape François est en Irak. Il rencontre en ce moment même l'ayatollah Ali Sistani. C'est le plus haut dignitaire de l'islam chiite dans le pays.
Et puis un dîner gastronomique à déguster à côté de son lit. Les cuisines des plus grands hôtels sont restées ouvertes. On vous emmène en Savoie en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À Lyon, doit-on parler d'une loi des séries ? Le climat de tension est-il en train de se propager ? De nouvelles violences, en tout cas, ont éclaté hier soir dans la ville de Rieux-la-Pape.
24 heures après le déchaînement de violences dans le quartier de la Duchère à Lyon, c'est donc à Rieux-la-Pape que des dizaines de personnes ont décidé de saccager tout un secteur, d'incendier des voitures. 6 personnes ont été interpellées, Nicolas Feldman.
Sur les réseaux sociaux, les images montrent plusieurs départs de feu, des poubelles, une dizaine de voitures. Sur une autre vidéo, des policiers sont pris à partie. Un peu plus loin, un bus est caillassé. En une trentaine de minutes hier soir, le quartier des Alaniers s'est embrasé. Le fait d'une trentaine d'individus que le maire de Rieux-la-Pape décrit comme très compact et très mobile, Alexandre Vincendet.
C'était un commando punitif qui a essayé de tout détruire sur son passage et de montrer un petit peu les muscles pour terroriser les habitants du quartier. L'explication, c'est que vous avez des voyous qui n'aiment pas que des élus viennent les déranger dans leur petit trafic. Alors moi, je le dis très clairement, s'ils pensent nous faire peur et nous faire reculer, ils se sont trompés de ville. Et je le dis, il faut que la justice frappe à la hauteur de la colère que je peux ressentir. Et cette colère, je sais que c'est la même parmi les habitants de ma commune.
En octobre dernier, déjà, des individus cagoulés avaient tenté d'incendier une église. À l'époque, le ministre de l'Intérieur avait annoncé la mise en place à Rieux-la-Pape d'un nouveau quartier de reconquête républicaine.
Face aux violences urbaines, rien ne restera impuni. La loi républicaine aura toujours le dernier mot. Voilà ce que disait hier le Premier ministre Jean Castex en déplacement à Beauvais sur le thème de la sécurité.
Mais l'actualité ce matin, c'est ce coup d'accélérateur donné dans la campagne de vaccination.
Rien que sur la journée d'hier, 250 000 injections ont été réalisées. C'est un record et le pays doit aller encore plus vite car le gouvernement veut avoir vacciné 20 millions de personnes d'ici la mi-mai. Pour cela, il faut vacciner le week-end et le soir. Reportage à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis de Damien Mestre.
Je viens vous chercher devant chez vous. Vous vous préparez ? Je suis là dans un quart d'heure.
C'est le maire en personne et en voiture qui vient chercher certains des futurs vaccinés. Ils étaient sur liste d'attente, prévenus à la dernière minute et ils arrivent ravis.
J'aurai l'esprit plus tranquille parce qu'effectivement, avec ou ma maman ou avec mes sœurs, c'est vrai qu'on ne se prend pas dans les bras, on ne se fait pas de bisous et ça peut-être qu'on pourra le refaire.
Ça fourmille dans le centre de vaccination et pour ne pas gâcher les flacons ouverts, certains se font vacciner hors critères comme Olivier, 58 ans à peine.
Voilà, on m'a proposé en me disant, bah écoutez, si jamais il reste des doses, est-ce que vous seriez intéressé ? J'étais tranquillement assis en train de regarder la télé. Le centre m'a appelé il y a 3 quarts d'heure.
C'est le docteur Inès Perrin qui va l'accueillir, mobilisé. Elle aussi, au pied levé.
Je suis à peu près à la retraite, donc j'ai un peu de temps libre. Et ça me semblait tout à fait normal de venir participer à cet effort.
Ici, on va vacciner quasiment 150 personnes en une journée. De quoi écouler une partie des près de 6000 doses supplémentaires reçues par le département ce week-end.
Un reportage de Damien Mestre. Et pour accélérer la vaccination, 4 hôpitaux militaires vont participer à la campagne.
Oui, et dans certains départements, il y a urgence. Le Pas-de-Calais est reconfiné pour les 4 week-ends du mois de mars, mais tout cela aurait pu être évité selon certains élus.
Oui, si la vaccination n'avait pas pris autant de retard, la mesure aurait pu être évitée ou allégée, c'est l'avis du maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier.
Depuis des mois, nous demandons à ce que le retard que nous avons constaté sur la stratégie vaccinale sur le Pas-de-Calais, de l'ordre de 30% de vaccination de moins qu'au niveau national, eh bien que ce retard soit compensé. Et si aujourd'hui nous avons des taux d'incidence aussi élevés, c'est aussi la marque d'un retard coupable.
Comment expliquez-vous ce retard vaccinal ?
Parce qu'il y a eu des choix, parce qu'il y a eu des doses qui ont été priorisées vers d'autres territoires. Et donc, ce n'est pas à moi de l'expliquer, mais c'est à ceux qui sont à l'origine de cette politique vaccinale de nous apporter les éléments.
Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, et les explications tout à l'heure du préfet du Pas-de-Calais à 7h40. Louis Lefranc sera notre invité. 7h05 en Irak, la rencontre est historique. Le pape François se trouve actuellement à Najaf. Il doit s'entretenir avec l'ayatollah Ali Sistani.
Le pape est en Irak jusqu'à demain. Ce déplacement est en lui-même historique et la rencontre de ce matin l'est encore plus. Le plus haut dignitaire chiite a accepté d'ouvrir sa porte, ce qu'il ne fait jamais. Jean-Sébastien Soldani, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Jean-Sébastien, c'est une rencontre qui va de toute façon rester très confidentielle.
Oui, c'est une constante avec l'ayatollah Sistani, rien ne filtre. Il n'y aura probablement pas d'image de cette rencontre, peut-être une arrivée du pape sur place ou bien une simple photo, pas beaucoup plus. Le Vatican fait même savoir qu'il n'y aura aucun compte-rendu de cette rencontre. Pour éviter toute fuite, les deux hommes se verront en tête à tête. Seuls des traducteurs seront là, ça permet de se parler franchement. Le but pour le pape François, c'est d'inclure les chiites dans un dialogue qu'il a déjà entamé avec l'autre branche de l'islam, les sunnites. C'était avec l'imam de la mosquée à Lazare du Caire. Il s'agit de montrer que les grandes religions œuvrent ensemble pour la paix. Ça contribue aussi au signal que veut envoyer le pape en venant en Irak. Les chrétiens qui ont quitté le pays à cause de Daesh sont de nouveau les bienvenus. François compte bien sur l'ayatollah Sistani pour faire passer ce message auprès de sa population, car l'homme, aussi mystérieux soit-il, est considéré comme l'un des garants de l'unité de l'Irak.
Merci Jean-Sébastien Soldani, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak.
Ah oui, on en reparlera encore demain à 8h15, puisque je recevrai le père Patrick Desbois, prêtre auteur des larmes du passeur. Il est très impliqué justement dans cette question des chrétiens d'Orient en Irak.
L'ONU appelle au calme après la flambée de violence au Sénégal. 4 personnes sont mortes dans les affrontements qui ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Un mouvement de contestation a éclaté après l'arrestation d'un leader de l'opposition.
La mesure prise par Donald Trump pénalisait des milliers de viticulteurs français. Les surtaxes douanières imposées par les États-Unis vont être suspendues pendant 4 mois.
Oui, le processus de désescalade est enclenché. L'Union européenne et Washington ont accepté de suspendre toutes ces surtaxes et de se remettre autour de la table pour fixer de nouvelles règles. Carole Ferry.
Toutes les taxes sont suspendues pendant 4 mois, le temps de négocier une sortie de crise. Pour rappel, tout a commencé il y a 1 an et demi. Les États-Unis sont alors autorisés à taxer des produits européens dans le cadre d'un vieux conflit commercial au sujet d'aides d'État versées à Airbus. Donald Trump décide alors de taxer les avions européens, mais aussi les vins français à hauteur de 25%. Il y a quelques mois, l'Union européenne est à son tour autorisée à taxer des produits américains pour des aides versées à Boeing, œil pour œil, dent pour dent. La nouvelle administration Biden vient donc d'accepter une trêve, un soulagement pour Bernard Farge, président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.
C'est une excellente nouvelle pour les Bordelais, pour l'ensemble des vins français. Ces taxes américaines depuis maintenant 18 mois pratiquement, c'était vraiment un handicap très 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 lourd. Et plusieurs centaines de millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. La filière viticole subissait un conflit qui n'était absolument pas le sien. Nous avions pris une balle perdue. Le sujet s'arrête et c'est une excellente chose.
Enfin, le sujet n'est pas totalement clos puisqu'il faut maintenant parvenir à enterrer la hache de guerre d'ici 4 mois.
Carole Ferré du service économie d'Europe 1.
7h08, vous restez avec nous dans un instant, on vous emmène au cinéma. Bah oui, à New York, certaines salles ont rouvert hier après 1 an de fermeture et vous savez quoi ? Europe 1 y était, à tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, c'est le genre d'information qui redonne de l'espoir, qui promet des jours meilleurs. À New York, aux États-Unis, plusieurs salles de cinéma ont rouvert leurs portes hier.
Après 1 an de fermeture, le public a pu retrouver les salles obscures, moment symbolique auquel vous avez assisté, Alexis Guilleux.
Oui, pas de file d'attente devant ce cinéma de Broadway, mais des petits groupes d'amis et des couples qui franchissent ces portes restées closes pendant presque 1 an.
I'm very excited to see people again.
Je suis ravi de voir des gens à nouveau, dit Nick. On voulait soutenir l'industrie et la ville également, rajoute sa compagne Jess, heureuse de retrouver une expérience en communauté tout en respectant les règles sanitaires. Car la prudence est de mise, 25% des sièges maximum, pas plus de 50 personnes par salle, le masque obligatoire pendant tout le film. Dans ces conditions, de nombreux cinémas indépendants ont décidé de rester fermés. Jordan, elle, voulait venir dès le premier jour car rien ne remplace une salle de cinéma.
We have a great TV. We watched a lot of stuff. We have every single streaming service, but it does not compare. It just can't.
Et pour elle, voir le cinéma de son quartier ouvert, c'est une renaissance.
If this is open,
si ça s'est ouvert, c'est que New York est ouvert. C'est comme la dernière étape avant un retour à la normale.
Après les restaurants, les salles de sport et les cinémas, New York attend désormais le retour des concerts et des pièces de théâtre prévues pour début avril.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Ça dans
le pays,
envie,
les,
hein.
Chiffres, oui, les chiffres sont encourageants. Aux États-Unis, on a atteint jeudi, sachez-le, le plus faible nombre de contaminations depuis 5 mois.
Bah, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'effectivement, le pic était très, 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 très haut. Très, très haut. Et maintenant, c'est eux qui ont passé 3 mois sans aucune restriction. Ils redécouvrent à leur retour le couvre-feu, le port du masque, tous les marins du Vendée Globe qui ont rallié la terre ferme.
Oui, le dernier concurrent est arrivé hier et va devoir se réadapter comme les premiers de la course qui sont arrivés il y a plus d'un mois. D'ailleurs, comment vont-ils, Corinne Boulou ?
Eh bien, après 80 jours de solitude, sans cesse même pour le dernier concurrent du Vendée Globe, finalement, c'est sans doute le port du masque qui leur a demandé le plus d'efforts, comme le confirme Charlie Dalin.
C'est sûr que j'ai eu la chance de vivre sans masque, sans la menace de ce virus pendant 3 mois complets. J'étais vraiment libre comme l'air, je décidais de tout. Et c'est vrai que d'arriver dans une France avec un couvre-feu, avec le port du masque obligatoire presque partout, oui, c'est sûr qu'il a fallu un petit temps d'adaptation.
Alors oui, leur vie a changé, pas seulement en raison du contexte sanitaire. Le vainqueur Yannick Bestaven n'était pas forcément préparé à cette soudaine notoriété. Tournée médiatique, sollicitations en tout genre, là encore, il s'est adapté comme il nous l'a confié.
Oui, c'est sûr, les regards ont changé. On me demande de faire des photos que ce soit sur la dune du Pilat quand je suis allé me promener à Arcachon ou ici à la montagne. Alors, avant de descendre une piste, on me demande de faire quelques photos. Mais ça fait plaisir parce que c'est souvent des enfants en fait qui ont suivi le Vendée Globe avec leurs parents ou avec leurs écoles.
Et donc avec l'arrivée du dernier concurrent au Sable d'Olonne, c'est aussi une page de leur histoire qui s'est tournée définitivement. Mais tous deux ont déjà l'intention de se retrouver dans 4 ans au départ de la 10e édition du Vendée Globe.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1 et les marins du Vendée Globe, comme tous les Français d'ailleurs, devront patienter encore un peu avant de profiter d'un bon repas au restaurant. Les salles sont encore fermées, mais rien ne vous empêche de vous faire livrer chez vous ou bien de vous faire livrer dans la chambre de votre hôtel.
Oui, puisque les plus grands hôtels proposent depuis quelques temps des dîners gastronomiques. Reportage à l'hôtel La Bouite, c'est en Savoie, Jean-Luc Bougeon.
En cuisine, rien ne change, c'est toujours du très haut de gamme. Voici l'entrée présentée par le chef René Meilleur.
Vous avez des ravioles de reblochon, quelques poireaux, des oignons passés à la flamme avec des petits citrons pour donner un peu de peps. Et puis vous allez avoir un bouillon d'oignons.
Par devant, 2 hommes et 2 pigeons.
La nouveauté, c'est que désormais ces plats, il faut les monter dans les chambres et ici, dans cette vieille bâtisse savoyarde. Cela passe forcément par les escaliers, un vrai parcours du combattant.
On monte en chambre Célestine, c'est au premier étage de l'autre bâtiment.
Là, c'est la deuxième montée. C'est du sport. On travaille et on fait du sport en même temps.
Bonsoir. Vous allez bien ? Donc devant vous, c'est la première surprise, madame, monsieur. Le reblochon travaillé sous forme de ravioles, également déclinaison autour des oignons et ses bêtes. Agréable dégustation.
En tout cas, pour les clients comme Aurélie, le plaisir est là.
Ça reste super agréable. Et on ne se sent pas seul, on ne se sent pas isolé. Ils gèrent ça, le timing à la perfection. Ils prennent le temps de discuter. C'est un super moment pour nous.
Idem pour le chef Maxime Meilleur.
Aujourd'hui, il y a un vrai plaisir, c'est le fait d'accueillir nos clients chez nous. Je pense qu'ils vont nous le rendre 100 fois parce qu'on a fait l'effort de travailler.
Plein succès donc pour ce dîner gastronomique en chambre qui restera possible, c'est sûr, même après le Covid. Saint-Martin de Belleville, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Oui, parce qu'en attendant, la situation des hôtels et restaurants est plus que difficile. Ils ont rencontré le gouvernement hier et nous serons dans le journal de 8h avec Jean-Virgile Crans. Il est président du groupement national des chaînes hôtelières. Merci Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure, donc,
à tout à l'heure.
Pour ce journal de 8h.